Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit « Mais vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» Prenant la parole, Simon-Pierre déclara « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Aujourd'hui, c'est dimanche. Et aujourd'hui, c'est un dimanche où nous ne poursuivons pas les lectures du cycle liturgique, mais nous nous arrêtons pour vénérer les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Date de leur fête, 29 juin. Aujourd'hui, c'est le 29 juin. Et c'est la date aussi où, souvent dans le passé, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, on propose d'ordonner des nouveaux pasteurs. Les ordinations des nouveaux prêtres se font soit le 29 juin, soit le dimanche qui est avant ou après, mais autour de cette date, pour signifier précisément ce lien à l'Église universelle. C'est important de réfléchir un tout petit peu sur cette fête qui concerne au fond les fondements de l'Église, les fondations de l'Église. Pierre, qui est vraiment l'apôtre qui a une primauté sur les autres, qui est responsable du groupe des douze et qui va, une fois que Jésus sera ressuscité, puis qui sera parti dans son ascension, comment faut-il dire ascensionné, non ça convient pas, Pierre va passer partout et va aller visiter les communautés chrétiennes de Palestine. On le voit comme ça qui surgit ici ou là. Et puis il y a un moment où il va prendre le bateau et puis se rendre à Rome. Et là, il fondera une communauté chrétienne à Rome. Et saint Paul, lui, qui évangélise tout le bassin méditerranéen, fondant des communautés chrétiennes en grand nombre, lui aussi finira à Rome, mais d'une autre façon, c'est parce que il a fait appel à l'empereur pour un problème qui le concernait par rapport aux Juifs, et donc son jugement aura lieu à Rome. Et c'est là qu'il va passer au moins 2 années à attendre, la justice n'était pas plus rapide à l'époque, à attendre les résultats de son procès. Donc il va louer un petit logement et il va recevoir et prêcher et faire des réunions de prière à Rome. Et les deux apôtres, probablement, eh bien, seront en communion l'un avec l'autre, peut-être, à moins que Paul ne soit arrivé après le martyre de Pierre. Vous savez que Pierre est mort martyr vers 64 à peu près, au moment où il y a eu la grande persécution de Néron à cause de l'incendie de Rome. On a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome et donc on les a arrêtés. Ça a été le prétexte pour se débarrasser des chrétiens. On les a arrêtés et on les a crucifiés en grand nombre, notamment à l'endroit qui à Rome est appelé aujourd'hui le Colisée. Et Pierre sera crucifié la tête en bas. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il n'a pas voulu être crucifié comme Jésus, la tête en bas. Et voilà, en 64. Si bien que Paul survient à Rome, et Paul vivra le martyr sans doute vers les années 67-68. Il sera décapité sur la Via Appia. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous allons à Rome, nous pouvons vénérer les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Pierre a été enterré sur la colline du Vatican, et donc en dessous de la basilique Saint-Pierre, vous avez la tombe de Pierre. C'est tout à fait attesté et ça a été expertisé, et on a trouvé les ossements d'un homme qui date de l'époque de Pierre. Et Paul, lui, c'est une autre basilique, Saint-Paul hors les murs, dans la banlieue de Rome, et là aussi, il y a le tombeau de Paul. Et on a expertisé, c'est Benoît XVI récemment, qui a fait expertiser aussi les ossements. Et c'est pour nous un peu important, pour nous chrétiens, d'aller ainsi nous recueillir, quand nous allons à Rome, sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Là sont nos racines, au fond. Là sont... Et ça nous dit aussi que le christianisme est vraiment incarné, c'est-à-dire qu'au fond, nous gardons contact à travers des reliques, des apôtres fondateurs. On entendait tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres comment le premier apôtre martyr, non pas le premier martyr ce sera Étienne vers l'an 35, mais le premier apôtre martyr, c'est le frère de Jean, l'évangéliste, Jacques. Jacques, qui sera décapité par Hérode en 44. Donc, il va être le premier à rendre le suprême témoignage à Jésus. Et les reliques de Jacques sont vénérées, vous savez bien, à Saint-Jacques de Compostelle. Et le christianisme est incarné à travers ces démarches de pèlerinage que nous pouvons faire. C'est intéressant d'entendre tout à l'heure dans la lettre à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, Saint Paul écrire qu'il se sent vraiment tout proche du but. Il a couru une course et il dit, voilà, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle, je me suis bien battu, je n'ai plus maintenant qu'à recevoir la récompense du vainqueur. C'est quand même, c'est osé d'écrire une chose pareille. Hein. Il a vraiment conscience qu'il a fait ce qu'il devait faire et qu'il va être récompensé par le Christ lui-même pour cela. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me remettra cette couronne en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Mais il sait qu'il n'en a plus pour longtemps maintenant à vivre, et il dit « Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. » Voilà, il a vécu toute sa vie donné à Jésus, donné pour Jésus, brûlé pour Jésus, sa vie. Et maintenant, il dit, ma vie est un sacrifice, je l'offre volontiers pour Jésus, le moment de mon départ est venu. Et puis, vous avez entendu en première lecture un épisode qui concerne l'apôtre Pierre. Une fois, il avait été, justement, après l'arrestation de Jacques, qui a abouti à son martyre, Pierre aussi a été arrêté, mais Pierre a été relâché par une intervention d'en haut, par un ange qui l'a libéré de sa prison. Curieux épisode, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais il a l'impression de vivre cela comme dans un rêve. Il dit c'est pas vrai, il se pince pour être sûr qu'il ne rêve pas, et une fois sorti de la prison, il se dit mais oui, c'est pourtant vrai, ce qui vient de se passer est vrai. Et il a vécu une libération comme ça. Alors, vous direz, ben pourquoi ces deux façons? Dieu a ses raisons que nous ne connaissons pas. Jacques, lui, a été décapité. Pierre, lui, a été libéré. Ça illustre bien que dans notre vie courante, il y a des traitements différents pour les uns et pour les autres dont nous n'avons pas la clé. Et c'est le Seigneur qui, lui, tient toute chose en main et il sait ce qu'il fait. Et Pierre va vraiment vivre cette libération comme une possibilité qui lui est donnée de continuer son ministère de prédication et de coordination de l'Église tout entière. Et il va continuer son job, si j'ose dire, après cette libération, plus fort que jamais. Alors c'est intéressant de constater que vraiment la communauté chrétienne de Rome s'était mobilisée. Pierre avait été arrêté et Saint-Luc dans les Actes écrit « Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. » L'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous prions pour ceux qui doivent annoncer la parole, est-ce que, tiens, en ce moment, est-ce que nous prions pour les chrétiens d'Irak qui sont en grande difficulté et qui ont dû quitter même les villes les plus sécurisées et pour chasser et qui ont dû prendre le chemin de l'exil? Est-ce que nous prions pour nos frères d'Orient qui vivent actuellement des heures très très difficiles? Enfin, je terminerai par les paroles qu'on a entendues dans l'Évangile qui nous rappellent comment Pierre a reçu une mission spéciale de Jésus, puisque Jésus lui a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas l'Église de Pierre, c'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église du pape. Il y a quelquefois une vénération pour le pape qui tourne à la papolatrie et qui laisse à penser que c'est l'Église du pape. Non, c'est l'Église de Jésus, mon Église. Mais Pierre a un rôle particulier de fondement de cette Église, de pierre angulaire, en quelque sorte, sur laquelle l'Église est posée. Et Jésus fait des promesses étonnantes. Il dit « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle ». C'est important de bien entendre cela, parce que aujourd'hui, on aurait tendance à broyer du noir et puis à avoir des idées un peu négatives sur l'Église. Jésus a dit que l'Église avait les promesses de la vie éternelle. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Et il a dit concernant Pierre aussi, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». C'est inscrit dans l'Évangile. Et quoi qu'on pense, eh bien, effectivement, Jésus a voulu que dans l'Église, il y ait un pontificat suprême qui détienne le pouvoir absolu. Ça ne veut pas dire que c'est monarchique, c'est pas une royauté, mais c'est un service que Jésus a voulu établir dans son Église. Et de même que les évêques, c'est aussi un service où ils sont successeurs des apôtres. Et aujourd'hui, il y en a 5000 peut-être dans le monde. Voilà, s'il fallait faire un concile, on ne pourrait plus le faire au Vatican parce qu'ils sont trop nombreux par rapport à Vatican II où ils étaient 2500 à l'époque. Voilà, cette fête aujourd'hui de Saint-Pierre et Saint-Paul est l'occasion de prier pour deux nouveaux prêtres qui vont être ordonnés tout à l'heure à la cathédrale cet après-midi. Marc Isnard, qui est originaire de la cathédrale, et puis Gauthier Terral, originaire de... Si... Qu'est-ce qu'il sait ? Ballon, voilà, pas loin d'ici. Et donc des hommes qui sont issus de notre géographie diocésaine et qui donnent leur vie pour le service de l'Église qui est en Sarthe. Alors les Louveteaux qui sont là, faudrait peut-être réfléchir et écouter aussi, vous poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous que Jésus appelle à être prêtre demain? Vous voyez, cet après-midi, il va y avoir deux jeunes prêtres, deux prêtres tout neufs, qui vont être ordonnés par l'évêque, et nous serons tous autour, tous les prêtres du diocèse, pour accompagner l'évêque dans cette ordination. Est-ce que parmi vous, il y en a qui entendent l'appel à être prêtre et à servir Jésus en donnant toute leur vie? Parce que pour Jésus, on ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas faire les choses à moitié, il faut se donner tout entier, c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est un service exclusif. Et c'est ce que l'Église a voulu maintenir. Et donc, voilà, il faut entendre, il faut écouter et il faut prier. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour le service de ton Évangile? Alors, tout le monde n'est pas appelé à être prêtre, sinon ça se saurait, il y en aurait plus. Mais peut-être qu'il y en a quand même l'un ou l'autre. Et ce serait une très bonne nouvelle. Alors, il faut toujours être bien... Vous avez deux oreilles, comme moi, je pense. Hein. Et donc, soyez bien à l'écoute, à l'intérieur. Qu'est-ce que Jésus vous dit? Qu'est-ce qu'il attend de vous pour son Évangile? Point d'interrogation.